Cet épisode vous est proposé dans le cadre d'une sélection spéciale anniversaire des Pieds sur Terre.
Les Pieds sur Terre, Sonia Grönlund.
Des histoires, des enquêtes, des reportages.
C'est bizarre quand les choses arrivent.
Elle a la coupe d'Elisabeth Badinter et le look de Madame de Fontenay. Elle sort rarement sans chapeau, tailleur Chanel, ce jour-là mauve, assorti à des escarpins en agneau tendre. Perle fine aux oreilles, le collier idem, au moins potentiel. Elle est impeccable dans sa tenue de bourgeoise indémodable, chic, épatante, sympa, avec l'accent qu'il faut. Elle vit dans le quartier qui va avec, à Paris, près de la place de l'Alma, ce qu'on fait de plus élégant, vu sur les Invalides, la Tour Eiffel et la Seine. Sauf que voilà, en rentrant de ses courses dans l'impressionnant hall de son immeuble, Nathalie n'emprunte pas l'escalier principal, celui qui mène aux appartements haussmanniens, parquets, moulures, miroirs au-dessus des cheminées. Elle grimpe le petit raidillon de service à la peinture écaillée, jamais refaite depuis les années 60, jusqu'au 6e étage pour rejoindre son logement, une chambre de bonne de 6,50 m². Les toilettes sont sur le palier du dessous, il n'y a pas de douche, on suppose une bassine d'eau froide pour se laver. Dans sa chambre, living, salon, salle à manger minuscule, Nathalie a posé un tout fin matelas de 70 cm, plus petit que pour un enfant. Tout autour, le long des murs, des portants, ployant sous les vêtements haute couture dans leur housse de pressing, raconte sa vie d'avant. Mais jamais Nathalie ne se plaint, en tout cas, elle sauve la face, tient son rang, protégée semble-t-il par des valeurs, une éducation, qui lui sont une armure à toute épreuve. C'est ainsi que, fluctuat nec mergitur, elle continue à cuisiner avec soin et recevoir avec grâce. Ses convives vont changer, ce ne sont plus des hommes d'affaires ou des artistes en vue, mais ses voisins de palier, étudiants fauchés, solitaires de passage. Elle ne fait plus flamber ses bananes au Grand Marnier sur un piano de cuisine, mais sur un réchaud à gaz de camping qu'elle a posé au fond du couloir, gagnant ainsi 1 ou 2 mètres carrés pour tenir son standing. Le homard s'est dépassé, dit-elle. Le pure player Combini lui a consacré un petit portrait, mais ce n'est pas là que nous l'avons rencontré, mais par l'éditeur de son livre, un livre de recettes d'une bourgeoise dans l'adversité qu'elle a publié et qui s'appelle « Du piano au réchaud ». Que s'est-il donc passé pour que Nathalie se retrouve à vivre dans ce réduit, dont s'accommodent, je le précise, des centaines de jeunes filles au père philippines, d'immigrés du Wenzhou ou d'étudiants sans le sou? Quelle est l'histoire de cette chute spectaculaire? Rémi Dibowski-Douat a monté les escaliers, lui aussi, pour vous la raconter.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Alors là, on est dans la cage d'escalier. Alors, elle est magnifique, notre cage d'escalier. Donc, mon ami Francis a compté, il y a 111 marches. Il y en a peut-être un peu plus, j'en sais rien, mais bon, c'est comme ça. Le chêne est magnifique. Simplement, s'il était ciré une fois de temps en temps, ça ne lui ferait pas de mal. Il est demandeur, mais bon. Voilà. Donc, j'espère que vous admirez au fur et à mesure. Bon, toujours, donc ça, les toilettes. Les toilettes à mi-étage. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas être bourré quand on va pisser la nuit ou je ne sais pas quoi, vous voyez. J'en suis très fière des toilettes, hein, parce que c'est moi qui fais le stock de PQ, là. Voilà, mon stock de PQ. Là, il y a un dessin de mon père quand il était étudiant. Et puis là, il y a quand même... C'est pas parce qu'on est au 6e qu'on n'a pas le droit d'avoir du Chanel dans les chiottes. Voilà. Ici, vous avez la petite fontaine. Tout est d'époque. Presque les locataires, me concernant, mais pas tout à fait. En réalité, ça remonte à une... enfin, maintenant, ça remonte à une trentaine d'années. Je me suis mise à mon compte en 1985.
Dans tout ce qui concerne les arts de la table, j'étais chez Christophe pour m'occuper de la création des collections, de ce qu'on appelait dans le jargon local les produits hors maison, ce qui se communément aussi on appelait les produits cadeaux. Produits cadeaux qu'on trouvait dans les années 80 à la boutique Bagues, à la boutique Dior, à la boutique Lancel, à la boutique aussi Lubin rue Royale. Je m'occupais de la création de ces produits, enfin quand je dis création, c'est-à-dire de l'idée jusqu'à la proposition à la chaîne de franchise, au franchisé, jusqu'à l'achat. À l'époque, ça a été mon premier vrai job d'abord, il faut le dire. Hein. Ça a été mon premier vrai job chez Christophe. Il se trouve que ça a marché, et très bien. Donc, par la suite, j'avais envie de faire ça pour Christophe, mais aussi pour d'autres. Donc, je me suis mis, comme on dit, à mon compte. À ce moment-là, les sociétés unipersonnelles n'existaient pas. Donc, à tort ou à raison, on m'a dit de m'inscrire en nom propre en tant que BIC. Bénéfices industriels et commerciaux. Il s'est avéré que toutes les personnes qui s'étaient prévalues de ce régime fiscal ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité 4 ans après. Et à cette vérification de comptabilité, dans la mesure où on était exonéré d'impôts, on m'a dit « Madame, vous n'êtes pas BIC, vous êtes BNC, bénéfices non commerciaux ». Ça veut dire qu'il y a peut-être eu à l'époque une erreur d'orientation quant à la forme juridique. Et donc, ça a voulu dire, je suis partie avec un bon petit paquet, un redressement fiscal, vous voyez. Vous avez une vérification de comptabilité, et donc, comme vous n'êtes pas dans le bon régime, et que le régime, vous étiez exonéré d'impôts, et ben, vous avez les impôts à payer. Alors là, c'est-à-dire qu'étant un peu beaucoup tête brûlée, téméraire, j'ai continué à avancer. Je ne me suis pas... préoccupé outre mesure du redressement fiscal. C'est-à-dire que c'était tellement énorme, je me disais, de toute façon, tu ne peux pas payer. Donc, à la limite, comme je ne pouvais pas payer, eh bien, je l'ai probablement un peu négligé. Si vous voulez, c'est un peu comme le truc inaccessible. Vous dites, je ne peux pas m'offrir une Rolls, donc je ne la regarde pas, quoi. Je ne peux pas m'offrir un machin, donc je ne regarde pas. Quelque part, vous regardez la chose qui vous est un petit peu accessible. Donc, ne pouvant pas, bon, ben, j'ai dit un peu, on verra ce qui se passe. Et puis, moi, je suis une bourgeoise. À l'origine, je suis ce qu'on appelle une bourgeoise de naissance. Bon, mes parents étaient des artistes, donc peut-être je veux dire, de souche, enfin, bourgeoise, mais des artistes. Mon père est architecte, enfin, peintre, enfin, un peu rebelle, un peu anard, tout ce que vous voulez. Ma mère, Françoise, ayant créé le premier prêt-à-porter de luxe, les artistes ne passent pas pour des comptables, pour des personnes qui s'occupent, qui connaissent toutes les arcanes de l'administration fiscale, qui sont des gens prévoyants, sans le goût du risque, si vous voulez. Concernant ma famille, mon père et ma mère ont flambé tous les deux. Ils sont morts sans un radis, sans le moindre sou. Gilberte, la grand-mère adorée, est d'une bourgeoisie beaucoup plus aisée, de la haute, comme on peut dire, où il y avait un train de vie important, très cosmopolite. Elle sortait beaucoup, elle recevait beaucoup. Et quelque part, elle avait beaucoup dépensé, parce que, en m'en faisant profiter d'ailleurs, on a fait des croisières, on a fait des elle m'emmenait à la montagne, elle a tout flambé. Et quant à ma grand-mère maternelle, étant d'un milieu beaucoup plus modeste, elle avait de quoi vivre, mais il n'y avait pas de ce qu'on appelle, elle avait rien, il n'y avait rien. Je veux dire, personne n'était économe. Ma cassette, on n'est pas concerné, on n'est pas des écureuils, vous voyez ce que je veux dire. Bon, c'est comme ça. Christophe, j'ai pas très bien gagné ma vie. Je l'ai gagné pas mal parce que c'était mon premier boulot. Donc, ce n'est qu'après que ça a commencé à aller mieux ou à aller voir bien. Alors, comment j'ai vécu ? Mais j'ai vécu comme quelqu'un qui avance, qui a envie de croquer la vie à pleines dents, avec ce que j'espère, ce qu'ont beaucoup de gens qui sont gourmands de la vie, c'est-à-dire on compte pas beaucoup. J'ai emménagé en 1980 dans un appartement, dans un immeuble, plutôt un très bel immeuble de l'avenue de l'Opéra, du début de l'avenue. J'ai simplement, avec le plus grand bonheur, beaucoup donné, beaucoup fait partager. Et de ce côté-là, pas été très prudente, voyez. Et ben, ce qui m'attirait, c'était d'inviter au restaurant, de faire partager, d'inviter chez moi, de beaucoup cuisiner, d'avoir des bonnes bouteilles de vin. Parce que dans ces cas-là, vous croisez beaucoup de monde. Hein. Je veux dire, tout le monde est prêt à venir chez vous. Vous n'avez aucun souci à vous faire. Et j'ai acheté des vêtements aussi, mais parce que le vêtement, je ne vis pas la mode comme un extérieur social. Quand vous avez un œil, que vous aimez les belles choses, et que vous êtes sensible à ça, et que vous savez les regarder, vous savez les repérer, et que d'un autre côté, vous avez une grand-mère maternelle qui crée des chapeaux sur mesure, avec des matières nobles, que vous avez une mère, Françoise, qui a créé le premier prêt-à-porter de luxe avec Marie-Martine. Et donc, vous n'imaginez même pas porter autre chose, quoi. Donc, contrôle fiscal, je me trouve avec cette espèce de patate énorme en me disant que de toute façon, j'y arriverai pas. Donc, je m'en occupe un peu. Au bout d'un moment, malgré moi, je suis obligée d'y prêter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention, énormément. Et on va dire, c'est allé crescendo de 90 au moment où je suis arrivée complètement dans le mur en 2006. Mais l'attitude de l'administration fiscale a énormément changé dans les 20 dernières années. Si vous voulez, quand on pense dans les années 80, je veux dire, l'administration fiscale, c'était un rouleau compresseur. Il y avait assez peu la possibilité de communiquer et d'expliquer. C'était « Madame, vous devez ça, vous devez payer. » Et donc, vous recevez énormément de papiers de toutes les couleurs. Vous avez des saisies sur les comptes. Vous avez des... on vous envoie l'huissier. L'huissier, on vous dit qu'il vient le matin. En réalité, il vient la veille. Il y a quand même un abus de pouvoir, on va dire, notoire. Et au moment où j'ai eu ce contrôle... D'accord, j'avais pas fait vraiment ce qu'il fallait là-dessus. Je ne cherche pas à m'excuser, mais j'aurais trouvé quand même des interlocuteurs un peu plus compréhensifs ou qui se rapprochaient un peu plus de moi, un peu plus facilement, pour m'expliquer que, je veux dire, la situation eût été encore contrôlable. À partir du moment où j'ai un peu attendu. Ça a fait boule de neige. J'avais des intérêts qui finissaient par dépasser le principal. C'est un petit peu comme un prêt bancaire. Vous avez un prêt, au bout de 5 ans, 3 ans, X, vous n'arrivez plus à payer, mais vous apercevez que vous n'avez payé que des intérêts, vous n'avez pas encore commencé à payer le principal. Donc, il y a une boule de neige, vous voyez une boule de neige qui descend la pente et qui s'alimente toute seule et grossit au fur et à mesure, et vous n'avez plus aucun contrôle dessus, quoi. Alors, vous essayez de temps en temps d'arrêter la boule de neige. Vous allez voir la commission des chefs de services financiers. Vous remplissez des dossiers de surendettement. Vous mettez en place des échéanciers, des plans, tout ce que vous voulez. Mais comme vous n'avez pas de revenus fixes parce que vous êtes indépendant, donc en réalité, vous avez beaucoup de mal à tenir les calendriers parce que vous n'avez pas des rentrées régulières. Comme vous n'avez pas entre guillemets, placé votre argent intelligemment et que vous avez, entre guillemets, comme on le dit, flambé ou que vous êtes un panier percé. Donc, vous n'avez pas vraiment d'objet à vendre susceptible de vous rapporter de l'argent pour vous permettre de compenser. Moi, j'aurais eu un tableau, mais, non, mais j'aurais été tellement contente de pouvoir vendre le truc et hop, on n'en parlait plus. Vous voyez, je n'avais pas envie de conserver, enfin, j'étais pas là à vouloir mentir, à vouloir préserver mon patrimoine en essayant de pas payer les impôts. Pas du tout. J'étais pas du tout dans ce schéma-là. Me concernant, il n'y avait aucune dissimulation par rapport à l'administration fiscale. J'ai continué à tracer, à aller de l'avant, en essayant de mon mieux et le plus possible de résoudre ce problème fiscal. Et sur le plan de l'habitation, a commencé une marche effrénée entre 1995 et 2005-2006, parce que j'ai dû déménager tous les deux ans. Donc déménager tous les deux ans, pourquoi ? Non seulement parce qu'avec le trésorier du premier arrondissement, ma vie devenait très très compliquée, et mes revenus ne faisaient que s'amoindrir. J'avais des saisies, des huissiers, et sur le plan financier, j'essayais, mais vraiment de toutes mes forces, de trouver des accords avec l'administration fiscale pour arriver à m'en sortir. Et donc, ça devient un cercle vicieux entre les déménagements, le temps que vous passez sur votre dossier et le temps qui vous reste pour travailler qui s'amoindrit et la dette qui grossit toute seule parce que vous n'arrivez même pas à arrêter le compteur. Le compteur, il ne s'arrête pas, c'est comme le compteur électrique. Donc après, vous vous trouvez avec une patate, une boule de neige qui est totalement immaîtrisable. Entre les anciens francs, les nouveaux francs et maintenant les euros, je ne sais plus. Mais je sais que c'était énorme, énorme. Un truc totalement, en jouant au loto peut-être, le truc que vous ne pourrez pas maîtriser. Donc, il y a un moment où je suis vraiment rentrée dans le mur et je pense que il est extrêmement facile aujourd'hui de se trouver dans une situation invivable, ingérable et d'être dans la rue. Alors, en 2006... j'arrête de, bien évidemment d'avoir un loyer, un machin, parce que c'est devenu plus possible. À chaque fois que je pars en payant les trucs, mais d'une façon un peu compliquée, mais j'ai toujours payé, hein, non, là-dessus, voilà. Et donc, étant arrivé contre le mur, on va dire, j'ai plus un radis, j'ai pratiquement pas de boulot. Parce que les clients, enfin bon, tout devient extrêmement compliqué. N'ayant plus le moindre radis pour louer quoi que ce soit, parce que en plus il y a le radis, mais vous savez comme moi que pour louer, il faut pouvoir justifier de revenus réguliers, de machin, à personne pour se porter caution. Enfin, vous voyez, la société, c'est vraiment dérapé, c'est extrêmement facile. Donc la rue était à portée de main. À ce moment-là, une amie de pension, Martine, propose de me laisser la chambre de bonne qu'elle avait au sixième étage. Elle me dit, Nathalie, mais écoute, il y a une chambre à deux pas de l'Alma. Il y a une chambre au sixième. Si tu veux, je te la laisse. Voilà, tu peux y habiter. Et l'avantage est au fond de la cuvette, c'est qu'on ne peut que remonter. Donc c'est quand même un avantage énorme. Ça vous permet également d'apprendre à vivre autrement, avec 500 euros par mois, et de comprendre que même avant, quand vous pensiez ne plus avoir d'argent, ben vous en aviez encore un peu. D'ailleurs, c'est quelque chose de... Non, ça, il s'est trouvé que... Et encore, j'ai de la chance, parce que on est au 16e, limitrophe 8e, Et puis on est à pied, on est près du Grand Palais, on est près du Petit Palais, on passe la Seine, on est près des Invalides. Enfin, je veux dire, c'est extrêmement central. Là-dessus, c'est vraiment très agréable. C'est bien plus agréable que si vous êtes au fin fond d'Auteuil, quoi, vous voyez.
C'est important pour vous d'être dans le 16e arrondissement ?
Ah non, pas du tout. Alors ça, j'en ai rien à faire. Je dirais même que au départ, ça peut même être un handicap. Parce que, honnêtement, je ne veux pas donner l'impression de cracher dans la soupe, parce que je n'aime pas ça. Mais la bourgeoisie de base n'est pas forcément la classe sociale la plus sympathique. J'ai eu la chance que Gilberte soit une exception. La grand-mère, Gigi, la grand-mère adorée. Et quand vous avez affaire à, enfin, je veux dire, à la noblesse a aussi un autre comportement, enfin, j'entends la vraie, hein, bien évidemment, a un autre comportement par rapport à l'autre, qui n'est pas condescendant, quoi. Je veux dire, la condescendance, elle est bourgeoise, quoi. Donc, nous sommes dans le couloir. Et là, eh bien, parce que j'ai la chance... donc, j'ai d'abord eu une chambre, simplement. Enfin, c'est déjà bien d'avoir un toit. Donc, on va dire une chambre pour vivre et travailler. Et puis après, ma gentille propriétaire a fait l'acquisition d'une autre chambre au fond du couloir, ce qui m'a permis d'en avoir une autre de 6 mètres carrés et des brouettes pour pouvoir travailler. Donc, comme c'est un cul-de-sac, eh ben, je profite du cul-de-sac. Et donc, sachant que je suis plus vers le départ que vers la rentrée, ça fait 15 ans que je suis là, donc on peut l'espérer, je squatte, entre guillemets, le fond du couloir où j'ai installé ma petite cuisine de 50 cm sur 50 cm, hauteur 87. Là-dedans, vous avez tout ce qu'il faut pour cuisiner. J'ai mis, vous avez au sous-sol, si je puis dire, enfin à l'étage du bas, vous avez le fameux réchaud à un feu, vous avez 3 casseroles, vous avez 2 assiettes à escargot, très important, et vous avez un grille-pain, vous avez une petite marmite, ensuite vous avez un petit four, pas d'une puissance formidable, mais avec lequel vous pouvez faire réchauffer, faire des œufs cocottes et des bananes flambées, entre autres, et ensuite vous avez une planche à découper. Ce qui veut dire que, honnêtement, avec ça, vous pouvez arriver à cuisiner tout à fait correctement et avoir une assez grande variété de plats. Ici, on peut pas ranger les choses électriques, on n'a pas la place de les ranger, le temps de les nettoyer, on fait quoi? Vous coupez vos échalotes à la balançoire, c'est formidable. Vous faites votre purée à l'écrase-purée, ça va très bien. Voyez, et tout est comme ça, quoi. Et même sur le plan des aliments que vous achetez. Non, attendez, je veux dire, un écrasé de pommes de terre avec des sardines à l'huile, c'est délicieux. C'est délicieux. On n'a pas besoin d'acheter des langoustes qui n'ont pas vu la mer depuis je ne sais pas combien d'années, de temps, tellement elles ont voyagé, elles ont été congelées, décongelées, enfin bon, affreux. On n'a pas besoin. Bon alors, donc là, on s'arrête devant la première chambre, c'est la chambre numéro 5. Hein. Donc on va essayer de ne pas déranger le chat.
Elle fait combien en taille ?
6,52, 53, enfin on est là. Marquez, c'est assez commode, parce que 2 mètres sur 3, vous faites des quarts de tour, vous avez à peu près accès à tout. Alors moi, je dors par terre, là. J'ai découvert ça, c'est formidable, j'ai l'impression d'avoir un grand lit. Parce qu'au départ, il fait 70 par 1,90. Et comme vous êtes au niveau du sol, vous pouvez mettre les pieds dehors. Donc, c'est extrêmement commode. Et c'est bon pour le dos. Donc, voilà. Et puis là, il y a une vue magnifique, non seulement sur le loft des gens d'en face, mais sur la tour Eiffel. Mais on va attendre. Là, il est, je ne sais pas, l'heure... Et ça aurait été un élément, enfin, extrêmement important, parce qu'il y a quand même des moments moins roses. Enfin, la vie est formidable, bon, mais tout en étant formidable, pour être sûr de pouvoir savoir qu'elle est formidable, il faut bien qu'il y ait des moments qu'il soit moins. Donc, la tour Eiffel qui rythme les heures la nuit, C'est très important parce que ça vous recadre. Enfin, je veux dire, ça vous, si vous êtes sur le point de déraper, ça balise. Bah, déraper, c'est que c'est se laisser aller, c'est penser que on n'arrivera pas à remonter la pente, c'est que voilà. Et enfin, je rencontre un avocat qui s'appelle Oman Royahi. Il ne m'a pas demandé le moindre centime d'honoraire que j'avais absolument pas les moyens de lui payer. Et il m'a défendu avec simplicité et pragmatisme pour montrer que j'étais vraiment arrivée au bout d'un chemin, à fond de cale, au fond de la cuvette, vous l'appelez comme vous voulez, et que on ne tombe pas un œuf. Et que donc, ben voilà, il fallait m'aider. Et il m'a défendu et il a su plaider auprès de l'administration fiscale ma situation, ce qui a amené l'administration fiscale à effacer la dette. Alors aujourd'hui, la situation s'est améliorée grâce à une retraite que j'ai assez modeste, on va dire, par rapport à mon parcours, environ dans les 1500 euros de retraite par mois. Donc aujourd'hui, certes, j'ai une retraite, donc je suis extrêmement contente parce que j'ai absolument pas l'habitude d'être avoir de l'argent sans travailler, ça me paraît un truc incroyable, quoi. Donc maintenant j'en suis arrivée, je suis heureuse de payer. Quand j'ai un peu d'impôts à payer, je suis heureuse de les payer. Je me précipite pour les payer. She came from Greece, she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have room with Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. C'était La Dame du sixième étage, un reportage de Rémi Dibowski-Douatte réalisé par Alexandra Candy-Longuet. Merci à Nathalie Georges, à Mélissa Foust et à François Bréus. Les Pieds sur Terre sont à écouter ou réécouter en podcast sur l'application Radio France essentiellement et sur le site de France Culture à la page des Pieds sur Terre. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. Oh, I can't see anyone else smiling.